Bonjour François Talacas.
Bonjour.
Une nouvelle journée de mobilisation des professionnels de la santé a lieu aujourd'hui à l'appel de la CGT. On parle depuis des années du manque de moyens, des fermetures de lits, de l'épuisement des personnels, du manque d'attractivité des métiers de la santé. Et on a le sentiment, au fond, qu'on redit toujours un peu la même chose et que non seulement la situation ne s'améliore pas, mais qu'elle aurait plutôt tendance à s'aggraver. Est-ce que c'est le constat que vous faites ?
Oui, je pense que tous les soignants qui sont au contact des patients dans les hôpitaux font le même constat, c'est-à-dire que non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais la dégradation du nombre d'emplois dans les hôpitaux, c'est-à-dire en fait de soignants au lit du malade pour s'occuper du malade, continue à se dégrader. Avec un désamour qui est lié, certes, à plusieurs facteurs, mais il y en a un principal quand même, c'est que rappelons-nous de la première vague, rappelons-nous de la mobilisation extraordinaire des soignants.
Contre le
Covid, bien sûr. Et en fait, à ce moment-là, après 3 mois de travail intensif, on a entendu un discours présidentiel qui était quand même extraordinaire et qui nous a laissé penser quelques instants que ça y était, on avait été enfin compris. Avec le fait que certaines activités doivent être en dehors de la loi du marché, qu'il faut soutenir, qu'il y a des choses qu'on doit aux soignants. Et en fait, ça a accouché du Ségur qui, non seulement n'a rien résolu, si ce n'est qu'il a apporté une prime de 183 € à un certain nombre de soignants, avec beaucoup d'oubliés d'ailleurs. Mais finalement, sur le logiciel qui est à l'œuvre, à la fois au gouvernement et donc dans les directions hospitalières, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on reste sur une tarification à l'activité et on reste sur l'idée que finalement, il faut contrôler financièrement, de façon budgétaire, les hôpitaux et peu importe les conséquences sur le soin.
C'est la gestion qui prime, la gestion budgétaire. Votre interpellation du président de la République, le 27 février 2020, alors qu'il visitait votre hôpital, avait rencontré un écho très important. Vous disiez à Emmanuel Macron qu'il était très urgent de passer de la parole aux actes, pour dire les choses simplement. Il vous avait répondu que vous pouviez compter sur lui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trompé par le président de la République ?
Je pense que, c'est pas moi personnellement, je représente ici...
À l'époque aussi que, justement, ça n'était pas que vous qui parliez, que
oui.
vous faisiez...
Effectivement, j'avais dit que j'étais pas là pour moi, que je représente actuellement un collectif qui est le collectif interhôpitaux, mais en l'occurrence, on a tous la certitude qu'on a été trompé une première fois à ce moment-là, avec cette promesse de modification, et une deuxième fois, ce qui est plus importante, qui est le Ségur, qui a eu lieu en juillet de la même année, et qui a, du point de vue, encore une fois, du logiciel qui est à l'œuvre dans les hôpitaux, n'a absolument rien changé, avec toujours la même idée, c'est qu'il faut contrôler ces dépenses, et que les budgets, en particulier les budgets qui chaque année sont discutés, et là ça va être incessamment le PLFSS, et puis la définition de l'ONDAM, c'est-à-dire de la part d'argent qui arrive à l'hôpital, de l'ONDAM hospitalier, tout ça n'a pas été modifié et, plus important encore, tout ce qui fait qu'actuellement, il y a des équipes hospitalières qui sont détruites et qui vont mettre un temps fou à se reconstruire, avec, je rappelle, les chiffres, on les oublie parce que il y a actuellement, à l'assistance publique, 15% de postes vacants en infirmière. Depuis 2016, où il y a eu une réorganisation du temps de travail qu'on doit à Martin Hirsch, l'ancien directeur, on a perdu entre 3500 et 4000 infirmières sur un total de 19 000. Il faut se rendre compte de l'ampleur du dégât.
On parle beaucoup on en a par exemple beaucoup parlé cet été, de la saturation des services d'urgence. À quoi tient-elle ? Et est-ce que d'une certaine manière, l'état des services d'urgence peut être une espèce de baromètre de notre système hospitalier ?
Oui, baromètre, thermomètre, on peut utiliser toutes les métaphores qu'on veut.
Thermomètre, mais, c'est vrai que dans votre domaine, c'est peut-être plus approprié.
Mais non, parce qu'il y a beaucoup de pression aussi.
Oui. Mais puis le baromètre, il anticipe en principe.
Absolument. Oui. Le problème des services d'urgence, il est multiple. Mais on essaye de nous faire croire qu'en gros, les services d'urgence sont saturés, non pas parce qu'on manque de personnel, parce qu'on manque de médecins.
Mais parce que les patients ne sont pas raisonnables, qui viennent pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ce qui est beaucoup dit.
Voilà, et qu'il suffit de trier en amont. Oui. On oublie de dire l'essentiel. C'est que la majorité des patients, et surtout ceux qui doivent être hospitalisés, restent sur des brancards toute une nuit, comme ça a été récemment le cas pour une patiente de 98 ans qui a fait beaucoup d'écho.
Une ancienne résistante.
Absolument. Ouais. Et que donc, les faits sont têtus. Quand il n'y a pas de lit pour accueillir des patients qui nécessitent une hospitalisation, qui ne viennent pas par confort à l'hôpital, eh bien, on se retrouve avec cette situation dramatique. Et l'essentiel du problème des urgences est là. Après, il y a des problèmes d'attractivité pour les personnels. Mmh. Il y a le fait que les listes de garde ne sont pas fournies et que donc, il y a un moment où on tient le système à bout de bras et puis après, on craque.
Ça fait une trentaine d'années que vous travaillez dans le service public hospitalier. Est-ce que vous avez connu une époque où ça fonctionnait bien ?
Mais bien sûr, alors je comprends très bien cette question parce qu'il y a eu régulièrement des mouvements, notamment la grande grève des infirmières qui était tout à fait justifiée dans les années 80. Et on a l'impression que finalement, bon, c'est un système, bon, c'est comme ça. L'hôpital, ça va jamais, il n'y a jamais assez d'argent. Moi, j'ai connu effectivement une sorte d'âge d'or de l'hôpital public où l'essentiel était dirigé vers le patient et où c'est le soin qui primait, avec des équipes qui étaient pas si mal managé que ça, et qui était en tout cas, qui suivait un objectif commun. Actuellement, ça n'est plus le cas.
C'était quand ça ? C'était cet âge d'or, c'était quand ?
Moi, je dirais que c'était il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est-à-dire avant toutes les restructurations, avant le fait que Nicolas Sarkozy décide avec sa loi HPST qu'il fallait un seul patron à l'hôpital, et que donc le pouvoir...
C'est-à-dire à l'époque où les médecins avaient le véritable pouvoir de gouvernance de l'hôpital ?
En tout cas, ils y étaient associés et ils avaient un véritable poids. Là, actuellement, ça n'est plus le cas. Et l'idée n'est pas de mettre un médecin à la tête de l'hôpital. C'est pas ça le problème. Si c'est un médecin à la tête de l'hôpital, mais s'il applique le même logiciel, il se passera rien.
Ouais. Le ministre de la Santé annonce qu'un grand débat sur le système de soins va être lancé. Ce sera le 3 octobre prochain. Ça sera d'ailleurs, je crois, le Conseil national de la Fondation Santé. Est-ce que cette démarche vous semble utile ou est-ce que vous dites, mais enfin, c'est bon, le diagnostic, on le connaît, il a déjà été fait 1000 fois.
En tout cas, globalement, l'idée, c'est qu'effectivement, tout a été dit sur ce qui dysfonctionne dans le système de santé, y compris sur le problème des soins primaires, c'est-à-dire des soins de ville. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un problème de diagnostic. Il y a surtout un problème de confiance. Et la confiance, elle est basée sur des actes, et des actes qui convainquent ceux qui sont sur le terrain. Et cette confiance, il faut la rétablir extrêmement rapidement.
Elle est rompue aujourd'hui.
Elle est totalement rompue pour que cette confiance revienne, il faudrait que, par exemple, les infirmières, les jeunes infirmières, les nouveaux arrivants dans le système de santé à l'hôpital, aient conscience que quand ils arrivent dans un service, finalement, le chef de service et la cadre supérieure qui dirige l'équipe infirmière, ils ont du pouvoir, ils ont une capacité d'action et ils ne sont pas les jouets d'une direction qui leur dicte finalement la façon dont ils doivent gérer leur temps.
Il nous reste moins d'une minute, mais cette consultation lancée par le ministre de la Santé, est-ce que ça ne peut pas aussi être l'occasion peut-être d'y associer les citoyens, les patients qui, au fond, eux, ne sont jamais consultés sur l'état de l'hôpital ?
Alors ça, c'est la plus grande difficulté. Effectivement, quand on regarde ce mouvement depuis 3 à 4 ans, ce qui nous manque beaucoup, c'est le soutien permanent et décidé des patients. Il y a un mouvement actuellement avec une quarantaine d'associations qui s'est regroupée pour exiger des choses du gouvernement sur le plan des moyens. Mais effectivement, sans les patients, on s'en sortira pas. Et le problème des patients, c'est que soit ils sont malades et ils ont du mal à militer, soit ils sont aidants de malades et ils sont épuisés également. Et donc, c'est difficile de les mobiliser.
Merci François Salacas. Bonne journée.
Merci à vous.